Le message 3. Vivre dans le royaume de Dieu, comme la sphère de l'espèce divine. Excusez-moi, je dois juste m'éclaircir la gorge. Vivre dans le royaume de Dieu, comme la sphère de l'espèce divine. Ce terme « espèce » dans ce titre est très important, dans ce message en particulier. Et je ne me souviens que très peu de ce que j'ai appris en biologie, il y a bien bien longtemps. Et donc, j'ai rapidement regardé la définition du dictionnaire de ce terme « espèce ». Et ce que je dirais est la chose suivante. Il s'agit d'une catégorie d'êtres vivants qui ont tous des caractéristiques similaires ou des attributs similaires. Et qui, par conséquent, peuvent être dénommés par le même nom. Et donc, avec les animaux, il y a différentes sortes d'espèces. C'est ce qu'il me semble. Et nous, êtres humains, nous ne sommes qu'une seule espèce humaine. Et Dieu lui-même, en tant qu'une personne vivante, qu'un être vivant, est une espèce. À lui-même, à lui tout seul, il est une espèce. Les anges qui ont été créés par Dieu sont des esprits. Mais ils n'appartiennent pas à l'espèce divine. Ils n'ont pas les caractéristiques de Dieu. Et les êtres humains que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance, mais dans cet étape-là de la création, nous ne sommes pas de l'espèce divine. Nous avons été créés pour appartenir à l'espèce humaine. Lorsque nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire lorsque nous avons été régénérés, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et nous verrons cela plus tard en lisant quelques versets. Et nous sommes alors dans un domaine, une sphère, comme nous l'avons vu précédemment, de lumière, d'amour et de vie. Et à présent, nous voyons que nous sommes dans une sphère de l'espèce divine. Et de façon particulière, non pas de façon absolue, nous sommes de la même espèce que Dieu, notre Père. Et pour utiliser une illustration fondamentale, lorsque ma femme et moi-même, il y a plusieurs décennies, lorsque nous avons eu des enfants, nous avons eu une fille, puis un fils, et encore un autre fils. Il est évident qu'ils sont nés dans la même espèce que leurs parents. Ils ont la même vie, la même nature humaine, les mêmes caractéristiques fondamentales. Et maintenant, il nous faut voir, lorsque nous avons été engendrés de Dieu, lorsque nous sommes nés de Dieu, et donc, par conséquent, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, et que Dieu est notre Père, il nous faut voir que nous sommes pareils, nous sommes identiques que Dieu de nombreuses façons différentes. Dieu existe par lui-même, ce n'est pas notre cas. Dieu lui-même est éternel, ce n'est pas notre cas. Dieu est omniprésent. Et bien sûr, nous ne le sommes pas. Il s'agit là d'attributs qui appartiennent à la déité. Mais cela reste néanmoins un fait que nous sommes nés de Dieu. Et tout comme les enfants de parents humains ont la même nature que leurs parents humains, nous, les enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu, la nature de Dieu et de nombreux autres attributs de Dieu. Mais il y a une limite. Jamais nous n'appartiendrons à la déité. Jamais nous ne serons des objets d'adoration. Dans 1 Jean, dans l'épître, l'apôtre Jean met l'accent encore et encore sur le fait d'être engendré de Dieu. Cela signifie que par la régénération, notre seconde naissance, nous faisons maintenant partie de l'espèce divine. Et en un certain sens, nous sommes dans la même catégorie que Dieu notre Père. Nous avons beaucoup des mêmes attributs. Il a la vie éternelle, nous avons la vie éternelle. Il a la nature divine et nous participons à la nature divine. Et donc, nous sommes, au travers de la création, de l'espèce humaine. Et par la régénération, nous sommes de l'espèce divine. Et maintenant, nous en arrivons au point central de cette introduction de ce message 3. Il y a une sphère dans laquelle l'espèce divine vit. Et le royaume de Dieu est une sphère, est cette sphère-là. Il y a de nombreux aspects au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a de nombreux aspects. Le royaume de Dieu est une sphère dans laquelle Dieu règne avec autorité. Il règne sur nous. Et nous avons vu que le royaume de Dieu était une sphère d'amour et de lumière, et de vie. C'est une sphère tellement agréable où nous pouvons être. Et maintenant, il nous faut voir un autre aspect de ce même royaume de Dieu. Cet aspect est que ce royaume est la sphère de l'espèce divine. Et je me répète, l'espèce divine est tout d'abord Dieu lui-même. Et ensuite, tous ceux qui ont été engendrés, tous ceux qui sont nés de Dieu. Tous ceux qui sont pareils à lui dans certains aspects, dans leur vie, dans leur nature et dans d'autres aspects. Et donc nous faisons partie de l'espèce divine. Et alors que nous vivons sur la terre, dans cet âge, encore et encore, nous interagissons avec d'autres êtres humains. Et il nous faut prendre conscience que nous appartenons à une autre espèce que ceux qui ne croient pas au Seigneur, que ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Nous sommes de la même espèce humaine, mais nous appartenons aussi à une autre espèce, l'espèce divine, ce qui fait de nous une espèce divine humaine. Et maintenant, nous allons lire quelques versets, afin d'être rafraîchis, d'avoir ces versets bien connus rappelés à notre mémoire, afin que nous puissions venir en toute simplicité, pauvres en esprit, à la parole et contacter, toucher l'esprit et la vie dans la présence de Christ comme la parole vivante. Et ensuite, nous entrerons dans la première section de ce plan afin de comprendre à quoi ressemble cette sphère. Car il nous faut devenir très familiers avec cela afin que nous puissions voir à nouveau quelque chose d'évident. Lorsqu'un enfant naît, peut-être dans un hôpital ou simplement à la maison, les parents savent que ce petit bébé, ce petit garçon, cette petite fille, il est dans la même sphère que nous sommes. Et tous font partie de cette sphère, de cette unité que l'on appelle famille. Mais cet enfant n'est pas encore capable d'en être conscient, de prendre conscience, de le comprendre. Et de façon limitée, cela pourra nous aider à comprendre que lorsque nous avons fait l'expérience de la régénération, il est probable qu'aucun d'entre nous n'ait eu immédiatement cette prise de conscience que je suis dans une autre sphère, je suis dans la maison de Dieu. Et la plupart d'entre nous n'avons pas été régénérés dans le contexte de la vie d'Église véritable dans le recouvrement du Seigneur. Et donc, beaucoup parmi nous étions dans des institutions, des organisations religieuses, dans des dénominations. Et donc, nous n'étions pas dans une atmosphère où nous pouvions comprendre ce qui nous était arrivé. J'ai fait l'expérience de la régénération lorsque j'avais 15 ans, presque 16 ans. Mais ce n'est qu'après avoir atteint l'âge de 27 ans, voire plus, que j'ai commencé à comprendre ce qui m'était arrivé et que j'ai commencé à comprendre où j'étais. Et donc, alors que nous, personnellement, alors que nous avançons dans la vérité, dans la vie et dans l'expérience, il nous faut continuer, il nous faut progresser. Mais alors que nous prenons soin des autres, en leur prodiguant des soins pastoraux, il nous faut apprendre à les guider pas après pas, afin qu'ils puissent prendre conscience qu'ils se trouvent dans une sphère, dans le royaume de Dieu, en tant que sphère de vie, qu'ils sont nés de Dieu, qu'ils sont dans la sphère de l'espèce divine et qu'ils sont comparables à un enfant qui grandit dans la vie. Et qui prend petit à petit conscience et qui, un beau jour, aura ce premier mot, et j'espère que c'est son premier mot, « Maman, maman ». Papa, oh, je ne suis pas tout seul. Et qui sont ces autres gens qui ne sont pas autant grands que papa ou maman? Et ils découvriront qu'il s'agit de leurs frères, de leurs sœurs. Et donc, dans ce message, nous voulons simplement faire un pas. Et le Seigneur-Esprit sait où chacun d'entre nous se trouve et quel est le besoin de lumière que chacun d'entre nous a besoin. Et alors que l'esprit de réalité nous guide dans toute la réalité. Et maintenant, les versets. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et donc, une personne qui n'est pas encore née de Dieu ne peut voir, spirituellement parlant, le royaume de Dieu. Une telle personne ne peut comprendre cette notion. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, nés de Dieu, dans notre esprit, nous sommes alors capables de voir où nous sommes. Nous ne savons peut-être pas comment l'appeler. C'est pour ça que nous avons besoin de soins et de recevoir un enseignement. Comme dans une famille, on ne reçoit pas seulement un enseignement à l'école, mais les parents enseignent à leurs enfants. En tant que père et mère, ils enseignent à leurs enfants à voir où ils sont. Et maintenant, les versets 5 et 6. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans ce verset, l'eau fait référence au baptême. Ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous régénère. Mais dans le baptême, d'un côté, nous faisons l'expérience de l'application sur nous de la mort de Christ à la croix. Et de la mort de la création et l'humanité déchue. Et nous naissons de l'esprit. Et c'est alors que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Un petit commentaire sur le baptême. Le baptême fait partie de l'entrée. Car il faut quitter une certaine sphère. Il y a un transfert. Et nous entrons dans la sphère de Dieu lui-même. Nous sommes baptisés dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous remercions le Seigneur. Et peut-être, je fais une petite exception ici, car il y a certains parmi nous qui sont peut-être nouveaux et qui entendent de tels propos pour la première fois. Et donc, des centaines parmi nous peuvent témoigner que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous voyons le royaume de Dieu avec des yeux spirituels et nous sommes nés d'eau et de l'esprit et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et nous voilà. C'est là que nous sommes. Et nous continuons maintenant, nous allons jusqu'au chapitre 18, le verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs aurait combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus fait référence au royaume de Dieu comme en tant qu'un royaume de vie. J'apprécie énormément ces deux mots, mon royaume. Le Seigneur appelle cela mon royaume. Et lorsque nous utilisons ce mot, mon, il s'agit de mon smartphone. Cela signifie que cet objet m'appartient. Mais il y a une autre signification, un autre sens qui, je pense, s'applique bien ici. C'est comme lorsque nous disons que l'Église est notre maison. L'Église est ma maison. Ou lorsque nous disons que le recouvrement du Seigneur est ma bénédiction de la part de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous la possédons, mais cela veut dire que nous y sommes, nous y prenons part. Nous sommes dans le recouvrement du Seigneur d'une manière merveilleuse. C'est mon royaume, cela ne m'appartient pas, mais c'est où je vis, c'est ce que je suis. Et bien sûr, le Seigneur Jésus pouvait dire les deux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui-même est la réalité du royaume. Et donc nous parlons ici non pas de quelque chose qui appartient à la sphère humaine du monde, de l'ancienne création. Nous sommes dans une autre dimension. Ensuite, le chapitre 1, les versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et ce L' dans ce verset fait référence à Dieu en Christ en tant que la parole de Dieu incarnée avec la vie et la lumière. Et il est la véritable lumière. Nous voyons cela dans le contexte. Et ceux qui reçoivent le Seigneur en tant que la véritable lumière, avec la vie, à eux, il a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Et donc, nous avons reçu le Seigneur en croyant en lui. Et nous avons reçu la vie divine et la lumière divine en nous. Et ensuite, Dieu le Père nous donne l'autorité de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. Et le nom se rapporte à la personne. Et nous ne croyons pas seulement en, mais nous croyons en avec un mouvement vers l'intérieur. Il y a là la notion d'une union, d'une sphère. Nous sommes dans cette personne. Nous avons cru en le nom de cette personne, dans cette personne. Et ensuite, au verset suivant, il y a le mot engendré. Non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Laissez-moi lire ce verset de cette manière. Lesquels furent engendrés de Dieu. Encore aujourd'hui, en Europe, dans certains pays, les Pays-Bas en sont peut-être un. Des pays où la théologie réformée, qu'on appelle aussi le calvinisme, dans certains pays, cette théologie est prévalente. Et un des théologiens très très reconnu a écrit un livre qui portait sur son concept de la régénération. Et hormis ce théologien-là, tous les autres ne savent pas ce qu'est la régénération. Il s'agit d'une nouvelle naissance. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, ces théologiens calvinistes disent que Dieu nous a adoptés. Voilà comment ils comprennent de manière erronée ce mot grec que nous traduisons par filialité. Il parle d'adoption. Le premier-né dans ma famille était ma fille Rebecca, et je ne l'ai pas adoptée. Lorsque des enfants donnent naissance à un enfant, ils n'adoptent pas l'enfant. On adopte quelqu'un légalement, quelqu'un qui est né à d'autres personnes. Nous ne sommes pas les enfants adoptés de Dieu. Nous avons été engendrés de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est tellement clair. Lorsque nous disons que nous sommes des enfants de Dieu et nous mettons cela avec les versets dans Jean 3, 3, 5 et 6, comment devenons-nous des enfants de Dieu? Nous avons été engendrés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit dans notre esprit. Et la raison pour laquelle il nous fallait être régénérés, cela choquera peut-être certains, n'était pas parce que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de la rédemption, ce qui reste néanmoins vrai. Mais c'est parce que nous n'avions pas la vie de Dieu. Nous étions des enfants humains et nous n'étions pas des enfants de Dieu jusqu'à ce que nous naissions de lui. Je pense que c'est suffisant en ce qui concerne les versets en référence. Et maintenant, le point romain numéro 1. Dans le royaume de Dieu, non seulement la domination divine, mais aussi l'espèce divine sont présentes. Dans ce royaume se trouvent toutes les choses divines. Et donc ici, nous avons la domination divine, l'espèce divine, des choses divines. Et puisque nous sommes nés de Dieu, nous sommes de l'espèce de Dieu. Nous appartenons à l'espèce de Dieu. Dieu est véritablement notre Père. Le Seigneur a dit cela à Marie dans Jean 20. Je vais vers mon Père et votre Père. Votre Dieu et mon Dieu. Vous êtes mes frères. Car d'après 1 Pierre 1,3, aux yeux de Dieu, nous avons tous été régénérés lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité. Maintenant, il nous faut voir que le royaume de Dieu est une sphère de l'espèce divine. Et dans cette sphère, et avec cette espèce divine, il y a toutes les choses divines. Et nous verrons dans la deuxième section, lorsque nous parcourrons les points, nous verrons quelles sont les richesses insondables qu'on ne peut mesurer. Nous sommes tout simplement enveloppés, entourés par des choses divines. Oh, la paix de Dieu, sa miséricorde, sa sagesse, sa grâce, son amour, sa mansuétude. C'est dans l'atmosphère, c'est partout. Nous sommes dans le royaume divin, dans la sphère de l'espèce divine. Nous appartenons à l'espèce divine au moyen de la régénération et maintenant nous avons accès à toutes les choses divines. Tous les attributs de Dieu qu'il lui est possible de partager avec nous sont nôtres pour notre expérience et notre réjouissance. Certains de ces attributs ne peuvent être partagés. Jamais nous ne serons omniprésents. Jamais nous ne serons partout au même moment. Nous ne serons jamais omniscients, nous ne saurons jamais tout. Il s'agit là des attributs de Dieu dans sa déité. Le point A. Dans Jean 3, le royaume de Dieu fait plus référence à l'espèce de Dieu qu'au règne de Dieu. Bien entendu, le royaume de Dieu est le règne de Dieu. Mais ici, l'accent est mis sur l'espèce de Dieu. Et donc, il faut que cela soit notre accent, nous aussi, à nous aussi. Le point B. Dieu s'est fait homme pour entrer dans l'espèce humaine. Dieu est devenu un homme. La parole est devenue chair, c'est-à-dire l'humanité. Il était le fils de l'homme, il était un être humain. Il est entré dans l'espèce humaine et l'homme devient Dieu en vie et en nature, mais pas dans la déité, afin d'entrer dans l'espèce divine de Dieu. C'est si merveilleux. Au travers de l'incarnation, au moyen de l'incarnation, Dieu est devenu un homme. Il est entré dans la sphère de l'espèce humaine. Ensuite, dans la résurrection du Seigneur, il a été désigné Fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, devenant ainsi le Fils premier-né de Dieu, avec à la fois l'humanité et la divinité. Et lorsque nous sommes régénérés, lorsque nous naissons de Dieu, nous devenons Dieu, c'est-à-dire que nous devenons divins, en vie et en nature. Mais bien sûr, pas dans la déité. Et nous entrons dans l'espèce divine. Et j'espère dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur nous éclairera afin que nous puissions voir dans notre esprit où nous nous trouvons. Où nous nous trouvons intérieurement, intrinsèquement. Que nous puissions voir que nous ne sommes pas seulement de l'espèce humaine et ne participons pas uniquement à l'espèce humaine sur la terre, mais que nous puissions voir que nous sommes nés de Dieu afin de faire partie de l'espèce divine, de faire partie de cette sphère. Et je ne peux pas approfondir cela maintenant, mais le Seigneur va nous former pour que nous vivions dans ces deux sphères simultanément. Que nous vivions dans ces deux sphères en même temps. Nous vivons d'une part dans notre vie humaine normale, selon nos responsabilités, selon notre âge, selon notre étape de la vie, selon nos besoins. Mais en même temps, d'autre part, nous vivons dans une autre sphère, la sphère de l'espèce divine. Le point C. Pour entrer dans la sphère divine, la sphère de l'espèce divine, nous devons naître de Dieu pour avoir la vie divine et la nature divine. Nous entrons dans cette sphère en naissant, nés de Dieu. Méditons sur cette phrase un court instant. Né de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait être plus merveilleux, plus miraculeux que des êtres humains soient nés de Dieu dans leur esprit? Nous devrions tout simplement exulter intérieurement et louer notre Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Je crois au verset Romains 8, 16. L'Esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous sachions cela, que nous prenions conscience de cela, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes nés de Dieu, que nous sommes dans le royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine. À mes yeux, il n'y a rien, je ne peux imaginer rien qui soit plus merveilleux que le fait que des êtres humains soient nés de nouveau, nés d'en haut, nés de nouveau, nés de l'esprit, nés dans leur esprit, que des êtres humains soient engendrés de Dieu et deviennent ainsi des enfants de Dieu. Le point 1. Dieu créa l'homme non pas selon l'espèce humaine, mais à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour que l'homme soit le genre de Dieu, l'espèce de Dieu. Et donc, tous les autres êtres vivants, les animaux en particulier, il nous est dit dans la Genèse qu'ils sont selon leur propre espèce. Mais Dieu a créé l'homme selon son espèce. De quelle manière, de quelle façon sommes-nous de l'espèce de Dieu? Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Afin que nous puissions être de l'espèce, du genre de Dieu et finalement de l'espèce de Dieu. Les êtres humains créés par Dieu ne sont pas l'espèce de Dieu au moyen de la création seulement. Ils sont nés avec la capacité de devenir l'espèce de Dieu, d'appartenir à l'espèce de Dieu au moyen de la nouvelle naissance. Les croyants qui sont nés de Dieu par la régénération pour être ses enfants dans sa vie et sa nature, mais pas dans sa déité, sont davantage du genre de Dieu que ne l'était Adam. Adam avait été créé par Dieu, mais il n'était pas né de Dieu. Si Adam avait mangé du fruit de l'arbre de la vie, recevant ainsi la vie divine, Adam serait né de Dieu. Quelle personne merveilleuse il aurait été, sans aucun péché. Un simple être humain, né de Dieu, qui devient un enfant de Dieu dans la vie et la nature sans péché. Le chemin, l'accès à cet arbre avait été ouvert, mais nous savons tous ce qui s'est passé, et l'accès à cet arbre a été fermé jusqu'à la rédemption, jusqu'à ce que Christ meure à la croix. Et donc il ne faudrait pas que nous rêvions et pensions « Oh, combien j'aimerais être comme Adam !» Et il y a même certains théologiens qui enseignent que être régénéré, c'est être recouvré à l'état de l'existence d'Adam, lorsque Adam a été créé. C'est un enseignement absolument erroné. Nous, maintenant, appartenons à une autre espèce, à l'espèce de Dieu. Les petits points. Le petit A. Adam n'avait que l'apparence de Dieu, sans la réalité intérieure, la vie divine. Ce n'était qu'une apparence. Il n'y avait pas de réalité intérieure. Une vie humaine sans péché, mais pas de vie divine. B. Nous, les croyants en Christ et les enfants de Dieu, avons la réalité de la vie divine. Quelle bénédiction! Là, maintenant, alors que je suis en train de parler, alors que vous voyez et entendez ce que je dis, nous pouvons tous nous réjouir intérieurement. Nous avons la réalité de la vie divine. Et cette vie divine est très active organiquement. Et nous sommes en train d'être transformés et conformés à l'image du Seigneur dans la totalité de notre être. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant dans la sphère de l'espèce divine, le royaume de Dieu, qui est cette sphère. Et nous verrons dans le message 4, sous un autre angle, qu'une église locale véritable, selon le Nouveau Testament, la révélation du Nouveau Testament, est le royaume de Dieu pratiquement. Et que tous ceux qui sont dans la vie d'église sont nés de Dieu, nés de l'eau et de l'esprit, qui sont entrés dans la sphère de l'espèce divine. Donc, examinons la vie d'église corporativement en tant que la sphère de l'espèce divine. Nous savons, grâce à Apocalypse chapitre 1, que le Seigneur parle aux églises. Et Jean témoigne au sujet de Christ dans le chapitre 1. Il a fait de nous un royaume. Et même encore plus clairement, au chapitre 5, des peuples de toutes les nations. Et Jean parle aux églises. Ce qui indique que l'Église, que les églises sont le royaume. Et j'essaye de souligner ici qu'il nous faut avoir une nouvelle vision de la vie d'Église. Une Église locale est une miniature du royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine. Et tous ceux qui sont ici appartiennent à l'espèce divine. Mais cela peut se comparer à une famille. Ceux qui sont jeunes, ils peuvent voir et respecter des saints qui ne sont pas uniquement plus âgés humainement, mais qui sont aussi plus avancés spirituellement. Ces saints-là ont été transformés et le Seigneur est exprimé de plus en plus au travers de leurs âmes. Et ils sont en train d'être conformés à l'image de Dieu. Et c'est tout simplement normal dans une famille qui peut-être a 2, 3 ou 4 générations. Je connais un frère et une sœur qui ont dans les 70 ans et qui ont des enfants, des fils et des filles, qui ont des petits-enfants et qui ont des arrière-petits-enfants. Toutes ces générations dans une seule famille. Et personne n'est gêné d'être un arrière-petit-enfant. Quelqu'un est un petit-enfant d'âge de jeune adulte, quelqu'un est un enfant et d'âge mûr, et ensuite les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont dans une autre sphère, sont à un autre niveau. C'est quelque chose de normal et c'est une image de la vie d'Église. Et cela nous motive à faire l'expérience du Seigneur jour après jour, à prier pour la croissance dans la vie. Le petit C, notre seconde naissance, la régénération, nous a fait entrer dans le royaume de Dieu pour devenir l'espèce de Dieu. Je crois sincèrement, comme vous tous, que le Seigneur, à travers le continent de l'Europe et du Royaume-Uni, je crois sincèrement que le Seigneur a encore de nombreux élus qu'il a choisis dans l'éternité passée. Et l'Évangile doit les atteindre afin que Dieu puisse les appeler et même cette année, puisse un grand nombre d'Européens dans divers pays qu'ils puissent être nés de Dieu et qu'ils puissent venir à faire partie de l'espèce de divine, qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine, qu'ils puissent entrer dans la vie d'église, dans une église locale, l'église à Amsterdam. Il s'agit là du royaume de Dieu pratiquement. C'est une expression locale du royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine. Puisse le Seigneur ajouter beaucoup plus de personnes aux églises dans ce pays. Tous les enfants de Dieu sont dans le royaume divin de l'espèce divine. Tous les enfants de Dieu sont dans cette sphère. Malheureusement, Dieu seul le sait, combien de ses enfants vivent sur la terre aujourd'hui. Certainement qu'il y en a plusieurs millions, plusieurs millions. Ils sont nés de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Mais seule une minuscule fraction, moins d'1%, sait où ils se trouvent, savent où ils se trouvent. Beaucoup ont reçu comme enseignement qu'ils appartiennent à la terre et qu'ils sont liés à la terre, mais qu'ils ont été sauvés pour les cieux. Nous avons été sauvés et régénérés pour le royaume de Dieu, dans le but d'accomplir le dessein de Dieu. Et puisse le Père de gloire nous donner un esprit de sagesse et de révélation. Puisse-t-il donner un tel esprit à tant de croyants sur la terre, où qu'ils soient, que cela soit dans l'Église catholique romaine, dans l'Église orthodoxe, et même dans les dénominations, dans les églises d'État. Puisse le Seigneur les éclairer, briller sur eux. Puisse-t-il leur montrer où ils sont. Ils sont dans la sphère divine de l'espèce divine. Petit e, les croyants sont des hommes-Dieu dans l'espèce divine, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Je suis sûr que c'est le cas au Royaume-Uni et peut-être dans d'autres pays d'Europe, que les jours de simplicité sont révolus en ce qui concerne le genre masculin, féminin. Il y a maintenant cet enseignement erroné, démoniaque, qui dit « Non, ce n'est pas vrai, peu importe comment nous naissons physiquement, nous pouvons être ce que nous voulons. Et nous pouvons être beaucoup de choses. » Et dans certains endroits, en particulier dans certaines universités aux États-Unis, les étudiants, on leur dit, on leur enseigne, on leur demande d'utiliser les bons pronoms. On parle à quelqu'un qui semble être un jeune homme et il vous dit « Non, appelez-moi elle. » Et une jeune femme pourrait dire « Appelez-moi il. » Et quelqu'un d'autre dirait « Oh, je suis les deux. Appelez-moi il au pluriel. » Probablement que là, cela ne se passerait jamais, mais si je me retrouvais dans une telle situation, bien sûr, j'aimerais prendre soin de cette personne et la respecter. Et je demanderais « Comment faudrait-il que je m'adresse à vous ?» Quel est le genre que vous pensez être? Que devrais-je dire? Et j'espérerais qu'il pourrait y avoir une fois où je pourrais dire « Ok, maintenant, laissez-moi vous dire quel est mon genre. Je suis homme-Dieu. Je suis un fils de Dieu. Et donc, vous me demandez de vous respecter, de respecter ce que vous considérez être votre genre, quelle que soit votre apparence, quel que soit le genre de corps que vous avez, voilà comment vous vous considérez. Et je vous respecte. C'est vraiment le cas. Et maintenant, j'aimerais que vous fassiez la même chose à mon encontre. Je suis né de Dieu. Dieu est mon Père. J'ai sa vie et sa nature. Je suis un enfant de Dieu. Et je témoigne de cela auprès de vous. Et je vais devenir un fils de Dieu. Nous sommes des hommes-dieux. Nous appartenons à l'espèce divine. Mais ce n'est que lorsque les fils de Dieu auront été manifestés dans la gloire que cela sera désigné, que cela sera manifesté. Nous avons maintenant une section relativement longue et je vais surtout la lire. Autrement, il me faudrait donner au moins trois autres messages. Et du point A au point Y, ce sont des versets qui viennent de l'Évangile selon Jean. Ils nous aident à réaliser ce qui est présenté ici. Quel est le genre d'expérience et de réjouissance que nous pouvons avoir lorsque nous vivons dans le royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine? Dans l'Évangile selon Jean, nous voyons de nombreux aspects de la vie des croyants dans le royaume de Dieu, comme la sphère de l'espèce divine. Et donc Jean vivait dans cette sphère lorsqu'il a écrit au sujet de cette sphère. Certainement, il était un modèle. Le modèle d'un homme-dieu qui vivait dans la sphère de l'espèce divine. Et tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il mentionne, tout est ancré dans la réalité qu'il a expérimentée, la réalité qu'il est devenu. Parcourons maintenant tous ces points au cours des 20 prochaines minutes. Jean 1, 16. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et grâce sur grâce. Dans le verset suivant, il nous est dit que la grâce et la réalité sont venues par Jésus-Christ. Et maintenant, nous participons à la plénitude, au débordement des richesses insondables de Christ. Et nous recevons grâce sur grâce. C'est comme une vague après l'autre. Et cette grâce n'est pas seulement une faveur que nous ne méritons pas, ce sur quoi les calvinistes mettent l'accent. Non, il s'agit de Dieu lui-même en Christ qui vient à nous pour notre réjouissance. Et donc ceux qui vivent dans cette sphère reçoivent grâce sur grâce. Le Dieu trinitaire en tant que leur approvisionnement et leur réjouissance. Le point B, il souffla en eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et donc, dans cette sphère, oh, nous n'avons pas uniquement besoin d'oxygène extérieur, non, nous respirons, nous inspirons le Saint-Esprit. Le Christ tout inclusif qui est passé par un processus et qui est ressuscité pour devenir le Saint souffle, le pneuma, le Saint-Esprit. Et nous ne faisons que l'inhaler. C'est tellement simple. Le point C. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, nous avons l'eau vive. Et lorsque nous buvons de l'eau vive, en invoquant le nom du Seigneur, cette eau qui nous est donnée par le Seigneur devient en nous une fontaine. Une fontaine d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et au moins certains parmi nous peuvent témoigner de ceci. Il y a des fois où dans notre contact avec le Seigneur, alors que nous contactons le Seigneur, nous buvons de l'Esprit, comme cela est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 13, nous buvons. Et l'eau spirituelle que nous buvons devient une fontaine. Oh, qu'est-ce que cela ? Je viens de boire cela et maintenant il y a une fontaine qui jaillit et qui coule. Il s'agit là d'une expérience dans la sphère de l'espèce divine. Le point D. Le Seigneur fait ici référence à lui-même en tant que le pain de vie. Et il appelle aussi ce pain le pain vivant, le pain céleste, le pain de Dieu. Il dit « Celui qui me mange vivra lui aussi à cause de moi. » Et là, donc, dans cette sphère, nous nous nourrissons du pain de vie et ensuite, sans aucun effort, nous vivons à cause de lui. Nous n'avons pas besoin de faire d'effort, d'essayer. Après avoir eu un repas consistant, nous n'avons pas besoin d'essayer de vivre la vie humaine. Nous sommes simplement approvisionnés pour vivre notre vie humaine. Le point E. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Je vous donne ma paix. Et il a dit, non pas comme le monde donne, mais je donne. Et dans cette sphère, cette paix, dans cette sphère, il y a la paix. Nous avons la paix. Le Seigneur est notre paix. Récemment, lors d'une communion avec des saints, en particulier au travers de SMS ou de courriels, mais aussi lors de communions face à face, j'ai partagé « Puisse le Dieu de paix garder vos cœurs et vos pensées ». En Christ Jésus. Vous vous trouvez là dans votre situation qui n'est pas facile, et c'est peu dire. Mais dans cette situation, puisse le Dieu de paix garder vos cœurs et vos pensées. Et donc, dans cette sphère, nous avons une telle paix. Il s'agit là d'une caractéristique remarquable de la sphère de l'espèce divine. Le point F. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et donc dans cette sphère de l'espèce divine, nous prenons conscience de plus en plus de comment le Seigneur nous aime. Il nous aime. Et il veut que nous demeurions dans son amour. Il ne veut pas simplement que nous ayons des expériences brèves, mais il veut que nous vivions, que nous demeurions dans son amour. N'est-ce pas merveilleux? D'être dans une telle sphère où, de plus en plus, nos frères et sœurs demeurent dans l'amour que le Seigneur a pour nous. Assurément, nous nous aimerons les uns les autres. Avec le même amour pour tout le monde. Le point G. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Nous avons ici la joie, ma joie. Le Seigneur désire que sa joie soit en nous afin que ma joie soit en vous. Et le Seigneur a un grand fardeau, que notre joie soit complète. Et ici, il s'agit de quelque chose de corporatif. et il me faut témoigner. Je languis de cela. Je ne sais pas si j'ai jamais véritablement fait l'expérience de cela, d'une situation où la joie du Seigneur devient notre joie, et que notre joie, la joie de toute l'Église, soit complète. Parlons par exemple de l'Église à Berlin. Que la joie du Seigneur soit en eux, quelles que soient leurs circonstances. La joie est le fruit de l'Esprit. Et leur joie, corporativement, est complète. Quel témoignage cela serait pour le monde entier. Le point H. Celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifeste que ses œuvres sont faites en Dieu. Et donc ici, nous pratiquons la vérité. Nous ne faisons pas que connaître la vérité, nous faisons la vérité. Et nous venons joyeusement, volontairement à la lumière. Et ensuite, la lumière prouvera et rendra manifeste que nos œuvres ont été faites en Dieu. Il n'y a pas besoin de se justifier, de se défendre. Non, nous faisons la vérité. Nous venons à la lumière, laquelle est Dieu, et la lumière manifestera quelle est la source de nos œuvres. Quels sont les moyens qui sont de Dieu? Le point I. Celui qui aime la vie de son âme la perd. Et celui qui est la vie de son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Le verset est Jean 12, 25. Nous savons que dans le verset 24, il dit « À moins que le grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et ensuite, au verset 25, il dit « Si quelqu'un me sert, ok, pardonnez-moi, je parle maintenant du verset 26, le point J. Je vais le lire après avoir lu le point I. Si quelqu'un, celui qui aime la vie de son âme la perd, et celui qui est la vie de son âme dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Ça, c'est le verset 25. Le verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi mon serviteur, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et donc, dans cette sphère de l'espèce divine, nous sommes volontairement et avec joie, nous sommes prêts à perdre la vie de notre âme, même à haïr la vie de notre âme dans ce monde. Nous ne sommes pas ici pour jouir d'une joie psychologique dans notre chair, dans la vie naturelle. Non, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à payer le prix pour suivre l'agneau où qu'il aille. Prêts à prendre notre croix, à suivre le Seigneur. Et si nécessaire, nous sommes prêts à perdre la vie de notre âme, perdre ce genre de plaisir et de réjouissance pour les intérêts du Seigneur. Et nous savons, grâce au verset 25, que nous la préserverons au sens que lorsque le Seigneur reviendra, notre âme ne souffrira plus, mais nous entrerons dans la joie du Seigneur, qui sera exprimée au travers de notre âme transformée. Et maintenant, nous le suivons. Mais ici, selon le contexte, comment le suivons-nous? Lui, il a été le grain qui est tombé en terre et qui est mort. Et maintenant, nous sommes des nombreux grains. Et si nous le suivons, cela veut dire que nous sommes prêts à tomber dans la terre, tomber en terre et à mourir afin de libérer la vie divine au-dedans de nous, afin que d'autres puissent être approvisionnés. Et je crois qu'il y a de nombreux frères et sœurs qui ont quitter leur pays, que cela soit les États-Unis ou Taïwan. Ils sont allés vivre dans un autre endroit dans le monde. Et oui, extérieurement, il y a beaucoup de services pratiques, beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail, de soins, de réunions, de distribution de la vérité. Mais au moins, certains, comme notre sœur M.E. Barber, n'ont pas beaucoup accompli. Elle est tombée en terre et elle est morte. Et elle a porté du fruit, ce qui inclut notre frère Watchmani. Et donc nous suivons le Seigneur de cette manière. Et nous serons là où il est, en résurrection. Et le Père l'honorera. C'est au-delà de ma capacité à imaginer. Mais certainement cela viendra. Et nous voulons vraiment, nous voulons faire partie de ces croyants-là. Et il est dit que le Seigneur témoignera de notre nom devant Dieu et ses anges. Et que le Père nous honorera. Car nous aurons suivi son Fils. Mon Fils était un grain, tu as été un grain. Tu es tombé en terre et tu es mort. Et personne ne savait ce que tu étais en train d'expérimenter profondément, mais je savais quel était le prix que tu as payé. Et je sais que ce qui en a découlé. Et maintenant, ouvertement, publiquement, je t'honore. Le point K. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car aussi le Père recherche de tels adorateurs. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Finalement, dans cette sphère, le Seigneur, le Père, obtient les adorateurs qu'il cherchait, qu'il attendait, qu'il a attendu depuis des centaines et des centaines d'années. Et cela s'applique à la table du Seigneur, à la réunion de la table du Seigneur. Et permettez-moi de dire que si vous entendez le message 7 de la formation pour les frères, il y a un passage, une portion au sujet de la table du Seigneur, de venir se réjouir du Seigneur et de glorifier le Père avec la meilleure portion de Christ. Il y a un grand besoin de cela. Mais l'heure vient. Et nous voulons certainement être parmi ceux qui satisfassent, ceux qui amènent la joie du Père. Car ils sont les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Le point L, demeurez en moi et moi en vous. C'est là un autre aspect de vivre dans la sphère de l'espèce divine. Nous vivons en Christ, nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Quelle vie d'église merveilleuse! Cela serait si... Imaginons que chacun, selon sa capacité, demeure dans le Seigneur et que le Seigneur demeure en eux. Quelle vie d'église cela serait? Eh bien, c'est tout simplement le royaume, la sphère de l'espèce divine. Le point M. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela sera fait pour vous. Et donc, c'est notre prière. Au lieu de simplement composer quelque chose de notre intelligence ou formuler quelque chose selon nos sentiments, nous demeurons dans le Seigneur et sa parole demeure en nous et ses paroles nous sont partagées et nous savons quelles sont ses prières et nous libérons ses prières. Et c'est fait. N. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, sans aucune exception. Nous n'aimons pas dans notre vie naturelle ou dans nos affections naturelles, comme lui-même nous a aimés. Voilà quelle est une des caractéristiques, un aspect de la sphère de l'espèce divine. Oh, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Cela ne fait pas référence au fait de se laver les pieds les uns les autres physiquement. Il s'agit d'une pratique spirituelle, de se laver les uns les autres, de laver, de purifier la poussière du monde grâce à l'écoulement de l'esprit. Et donc, chacun de nous, dans notre communion avec le Seigneur et avec les uns les autres, nous pouvons nous laver les pieds. Le point P. Paix mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. Paix mes brebis. Il s'agit d'une sphère où les soins pastoraux sont prodigués. Paix mes agneaux. Chers saints, êtes-vous en train de paître des agneaux? Ceux qui prennent la conduite, ceux qui sont plus matures, sois le berger de mes brebis, paie mes brebis. Dans cette sphère, nous sommes tous des brebis et nous sommes tous des bergers et nous nous nourrissons les uns les autres. Le point Q. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Dieu nous a choisis. Il nous a mis, il nous a placés dans le cep, et maintenant, alors que nous demeurons, nous devrions porter du fruit, c'est-à-dire nous devrions amener d'autres au salut, d'autres à la régénération, grâce à la vie qui s'écoule de nous, nous qui sommes des sarments dans le cep, et cette vie s'écoule dans les autres. Le point R. Marthe servait. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Nous avons d'une part Marthe, qui était pleine de capacité dans sa vie naturelle, et maintenant elle sert en résurrection. Et ensuite nous avons Marie, qui déverse son être intérieur sur le Seigneur. Et donc, dans la vie d'Église, nous servons. Et parfois, de temps à autre, nous brisons le flacon d'albâtre afin de déverser les aspects les plus précieux de Christ qui ont été forgés en nous, et nous déversons tout cela sur le Seigneur. Le point S. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je pense que nous savons tous maintenant que la maison du Père n'est pas le ciel, mais qu'il s'agit de l'Église. Au travers de la mort et de la résurrection, le Seigneur a préparé une place pour nous. Et chacun peut témoigner que lorsqu'il est venu dans la vie de l'Église, il a eu ce sentiment « Je suis à la maison. Me voici à la maison. » Et c'est alors que nous avons cette impression qu'une place nous a été préparée. Nous voici, nous sommes tous à la maison, dans la maison du Père, dans la demeure qui a été préparée pour nous. T. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelle révélation profonde! Vous connaîtrez, vous ne ferez pas que croire, vous ne ferez pas que savoir ou espérer. Non, vous connaîtrez que je suis en mon Père. C'est-à-dire que vous êtes dans le Père en étant en moi, car je suis dans le Père et je suis en vous. Il s'agit là du fait de demeurer mutuellement l'un dans l'autre. Le Seigneur est dans le Père est en lui, nous sommes dans le Seigneur et donc, par conséquent, nous sommes dans le Père, dans le Seigneur. Et le Seigneur est en nous, et le Père est dans le Fils qui est en nous, et le Fils en résurrection est l'Esprit. Il s'agit là d'une demeure mutuelle. Le point U. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons une demeure avec lui. Et donc, plus nous aimons le Seigneur, plus nous garderons sa parole vivante, en nous appuyant sur la parole écrite qu'il parle en nous. Alors, nous obéissons à cela, nous faisons cela. Et ensuite, que se passe-t-il? Le Père nous aime. Et le Père et le Fils viennent à nous. Non pas brièvement, mais pour faire une demeure avec nous, pour demeurer avec nous. C'est comme s'il disait, nous sommes ici maintenant. Tu as une demeure en nous, et maintenant nous allons faire une demeure en toi. Car tu nous aimes, et tu nous obéis. Le point V. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il s'agit d'une sphère d'unité. Le royaume de Dieu est la sphère de l'espèce divine. Il s'agit absolument d'une sphère d'unité. Il n'y a aucune division d'aucune sorte dans cette sphère. Il n'y a que l'unité. Et nous sommes même perfectionnés pour être un dans la gloire divine. Le point W. La gloire que tu m'as donnée, moi, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il s'agit là du plus haut degré d'unité. La gloire, c'est Dieu exprimé. Être un dans la gloire du Seigneur signifie que nous sommes un dans l'expression de Dieu en Christ. Et cela signifie également qu'il n'y a plus d'expression du moi. Il n'y a plus de moi. Personne n'exprime plus son moi lorsqu'il prie. Personne n'exprime plus le moi lorsqu'il parle. Le moi a été éliminé. Nous sommes saturés de la gloire divine qui nous sature et qui maintenant resplendit au travers de nous. Et dans cette gloire, nous sommes un comme le Père et le Fils sont un. Le point X. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient perfectionnés pour être un. Et donc, c'est un processus que d'être perfectionné pour être un. Et ce processus se déroule juste maintenant. Et donc, nous pouvons dire, oui, nous sommes un, mais nous sommes en train d'être perfectionnés pour être un. Et maintenant, le dernier point, le point Y. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Le Père nous a donc donné au Fils, et maintenant le Fils prie, et il dit qu'il désire. Il désire, il veut, cela vient de son cœur. Il veut que nous soyons, nous aussi, là où il est. Mais où est-il? Il est dans le Père, dans le Saint des Saints. Afin qu'il contemple ma gloire. C'est pour moi une façon formidable, magnifique de terminer ce message en contemplant sa gloire. Nous avons fait l'expérience de 2 Corinthiens 3:18. Nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire et maintenant nous sommes un dans la gloire divine et en étant dans le Fils, nous sommes avec lui, là où il est, dans le Père. Et le Père est glorifié dans le Fils. Et maintenant, nous contemplons sa gloire. Quelle expérience merveilleuse dans le royaume de Dieu en tant que la sphère de l'espèce divine. Il n'est pas surprenant que Paul ait dit à la fin d'Éphésiens 3, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus. » Quelle façon merveilleuse de vivre lorsque nous nous rassemblons dans l'unité. Et dans l'unité, nous contemplons la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, voilà ce qu'est vivre dans le royaume de Dieu, comme la sphère de l'espèce divine. Apprenons tous ensemble et aussi personnellement à vivre dans cette sphère de plus en plus, jusqu'à ce que nous soyons perfectionnés pour être un dans la gloire divine, et que nous puissions avoir la joie la plus complète qui soit, contemplant la gloire du Père. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus. Amen.